Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de A priori sur les ondes de chaise 94.3. Aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Viel qui va nous parler du procès de O.J. Simpson. Salut Caroline.
Allô?
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, toi?
Ah, ça va bien, merci. Je suis excité de pouvoir parler de ce sujet qui est vraiment intéressant pour son aspect juridique. Je pense que ça va pouvoir vraiment intéresser les étudiants du BAPRI, justement, parce qu'on étudie le droit. Donc, pour commencer, pourrais-tu nous faire une petite introduction avec qui es-tu? Pourquoi tu t'intéresses autant au procès de O.J. Simpson?
Moi, en fait, je suis une biapriste de première année et je m'intéresse en fait au cas de O.J. Simpson depuis à peu près 3 ans. C'est vraiment ce cas-là en particulier qui a piqué ma curiosité pour le domaine du droit. C'est un cas qui est assez connu, puis il a été médiatisé en fait, là. C'est pour ça qu'il est connu surtout pour avoir été le procès des années 90, le procès de la décennie, de par sa popularité. On parle ici, en fait, d'une célébrité, d'un ancien joueur de football très, très connu aux États-Unis qui avait été accusé du meurtre de sa femme. Donc, ça a vraiment là, choqué la population américaine au grand complet et même une certaine partie du monde, là, vu que c'est une célébrité, mais même pas juste aux États-Unis, mais en dehors, en plus.
OK, donc pour rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais-tu nous faire un petit historique de cette situation-là pour qu'on puisse avoir toutes comme les mêmes bases pour tout ça comprendre?
Oui, ben c'est ça, certainement. Donc c'est vraiment en fait quelqu'un, O.J. Simpson, qui était hyper connu, adoré du public surtout. C'était quelqu'un qui avait un très grand charisme, je dirais. C'était vraiment, il était adoré de en fait toutes les classes sociales, autant des blancs, des noirs. Vraiment, il rassemblait une grande partie de la population parce que justement c'était quelqu'un qui a brisé des records dans le domaine du football. Il courait extrêmement vite. Je suis pas une professionnelle de sport clairement, mais il est vraiment connu en fait pour les exploits qu'il a
Donc,
fait là.
un athlète
Mais c'est ça.
professionnel connu mondialement.
Exactement. Puis par la suite en fait, quand il a pris sa retraite, il est devenu un acteur. Donc encore là, il est resté dans l'œil du public. Il a aussi fait des grands partenariats avec des compagnies. Donc, il a fait beaucoup de publicité, donc il a vraiment été connu tout au long de sa vie. Mais cette célébrité-là a un peu pris fin ou, en fait, atteint pas mal son apogée lorsqu'il a été accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, en 94. Donc, ça a vraiment là, choqué les États-Unis au grand complet. Ça les a pris par surprise. Mais surtout, comme je vais vous en parler par la suite, ça a vraiment choqué plus particulièrement la population afro-américaine de la Californie. C'était vraiment comme si on pointait du doigt cette communauté-là, puis on voulait s'en prendre à elle, et non seulement à O.J. Simpson en soi.
Okay, donc O.J. Simpson représentait vraiment plus que lui-même, c'était la communauté
En fait,
afro-américaine.
exactement, tu sais, aux yeux de la population afro-américaine, c'était quelqu'un de très, très important, mais en soi, lorsqu'on prend un pas de recul, on comprend qu'O.J. Simpson, c'était pas quelqu'un qui s'identifiait vraiment avec le Civil Rights Movement dans les années, en fait, je dirais 60 à 90 aux États-Unis. Tu sais, c'était pas un acteur comme qu'on pourrait qualifier, exemple, Martin Luther King ou des personnages de ce genre. C'était plutôt quelqu'un qui se traînait avec des hommes riches, blancs, comme il était pas défini vraiment par la couleur de sa peau, mais plutôt par la personne qu'il était. La phrase qui est souvent retenue, puis que Jay-Z a dit dans une de ses chansons, c'est, il disait souvent, I'm not black, I'm OJ. Donc, c'est vraiment, il s'associait pas avec sa couleur de peau. Puis ça, dans le procès, là, ils ont vraiment éliminé cette partie-là de sa personnalité pour mettre l'accent sur le contexte racial, ce qui a éventuellement mené au résultat qu'on connaît aujourd'hui, là, du procès.
Donc, on a une personne qui s'identifie pas, qui est dans le comme sa couleur,
Oui, c'est ça, oui.
mais qui représente la communauté afro-américaine pareil.
Ces
C'est ça que tu
personnes-là
me dis.
s'identifient à OJ vraiment, c'est
OK.
ça.
Même
Mais
si
c'est moins l'inverse.
dans ses gestes humains, il représente pas ces personnes-là étaient
Exact.
pour lui.
Oui.
OK. C'est spécial comme situation, mais.
Oui. Ben, en fait, ça s'explique aussi notamment parce qu'au début, quand il a été recruté là, dans les grandes universités américaines pour jouer au football, justement, c'était un des premiers Afro-Américains, c'est qu'il était justement, puis il sautait aux yeux des personnes tellement qu'il avait du talent. Il a vraiment été repêché, mais par la suite, quand il est entré dans la NFL, ben là, c'était vraiment, il est entouré de beaucoup de personnes blanches, puis il est comme resté dans cet environnement-là. Tu sais, même dans les quartiers de la Californie qu'il a habité, c'était pas des quartiers qui étaient vraiment peuplés de beaucoup d'Afro-Américains. C'était plutôt, ben, à cette époque-là, c'est plutôt élitiste. Donc, il était vraiment détaché un peu de sa couleur de peau, mais c'était vraiment, justement, c'est pas mal au cœur de l'enjeu là, du procès d'O.J. Simpson, vraiment, le contexte racial.
Okay, il était comme dans la gang des Blancs, même s'il était pas blanc, genre. OK. Donc, c'est ça, là, on parlait des tensions raciales qu'il y avait à l'époque. Tu pourrais-tu nous en parler un petit peu plus en détail? Tu avais parlé des civil rights...
Des civil rights movement, oui. En fait, vraiment... Et ça, c'est un mouvement des droits civils pour les Afro-Américains qui a pris forme au courant des années 60 quand il y avait la ségrégation raciale. Puis ça s'est poursuivi là, au fil des années. Mais qu'est-ce qui est vraiment à retenir là, dans le contexte racial qui a mené vraiment au climat un peu qui s'est dégagé dans le procès d'O.J. Simpson? C'est le cas de Rodney King en 92. En fait, lui, c'est un Afro-Américain qui a été arrêté pour un excès de vitesse. Un simple excès de vitesse, puis il s'est fait arrêter par les policiers à ce moment-là. Ceux-ci, par contre, l'ont abattu à coups de bâton de baseball assez gravement. Ouais. Et ça a fait que Rodney King a pratiquement frôlé la mort. Évidemment, ça s'est ramassé en justice. Ça a fait un procès. Et les policiers ont été acquittés. Donc, ce jugement-là, qui a vraiment pris la population afro-américaine par surprise, les a tellement choqués que ça a mené à d'importantes émeutes dans les rues de Los Angeles pendant près d'une semaine, que les voitures pouvaient plus circuler, il y avait du feu partout. Le monde était révolté vraiment, notamment à cause du centre de police, le LAPD, qui avait mal fait son travail là-dedans. Mais aussi les injustices, l'accumulation des injustices qui étaient faites à l'égard là, de la population afro-américaine. Donc ça s'appelait les LA Riots. Ça a vraiment là... poser un climat de tension entre la population afro-américaine et le LAPD à ce moment-là, dans les années 90.
C'est un peu dans le style de qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd. Genre.
Exactement, ça peut vraiment être comparable
ça,
à ça. Oui, exactement.
C'est fou parce que c'était là, 50 ans puis ça n'a pas changé. Hein? Genre,
vraiment, c'est
encore
ça,
pareil.
Ça s'est répété encore là, c'est ça, 30 ans après, puis c'est vraiment là. On dirait que c'est encore des injustices qui se perpétuent, mais ça l'a vraiment. C'est comme vraiment une accumulation là. Du mécontentement de cette communauté-là. Parce que justement, il était mal représenté en justice et même s'il se défendait adéquatement, mais c'était tout le temps la police, ben, en fait, l'État qui gagnait finalement, là, peu importe le type d'offense qui avait été commise.
Est-ce que tu sais si c'était surtout le LAPD qui était de même? Est-ce que c'était généralisé à travers les États-Unis?
C'est sûr que, en fait, au niveau des injustices commises à l'égard des Afro-Américains, c'était pas mal à grandeur des États-Unis. C'était pas seulement le LAPD, mais comme on va en parler par la suite, là, le LAPD était connu aussi. Il y avait comme un. Il est un peu traité d'incompétent là, par une bonne partie de la population californienne, mais aussi du fait qu'il défendait les célébrités avant tout.
Okay.
Ça, par contre, c'est vraiment propre à eux et non au reste des États-Unis, vu qu'il y avait vraiment une grande densité de célébrités, en fait. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas à
Los Angeles.
Exactement, oui.
Et donc, les policiers étaient amis avec les célébrités. Les célébrités, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent.
Oui.
Une belle... Des gentils policiers, hein. C'est le fun. Donc, pour rentrer encore un petit peu plus dans le vif du sujet, là, pour placer les bases, là. O.J. Simpson, avant de tuer sa femme... Est-ce qu'il y avait une historique de violence conjugale avant? Est-ce que c'est sorti de nulle part? Est-ce que c'est une accumulation de sa relation avec sa femme? Est-ce que tu pourrais tu as des informations là-dessus?
Oui, ben ça, c'est vraiment intéressant. En fait, Nicole Brown Simpson et O.J. ont sorti ensemble pendant vraiment longtemps. Ils ont été mariés, ils ont deux enfants. Faut savoir que dès le début de leur relation, O.J. Simpson venait de prendre sa retraite du domaine du football, en fait. Il y avait à peu près là, vers la fin trentaine et Nicole Brown Simpson avait seulement 18 ans.
OK.
Donc déjà là, on dirait qu'il y avait une espèce de... Justement, là, une supériorité là, de la part d'O.J. là, dans la relation parce que justement, dû à l'âge... Ben, à la différence d'âge entre les deux personnes. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble en 1977. Ils se sont mariés en 85. Et entre ce moment-là, ça se passait relativement bien. C'est sûr qu'il y a eu quelques petits accrochages. Déjà là, en fait, c'est bien à mentionner que dès leur première date, il y a comme eu... je pense qu'il avait déchiré son pantalon ou quelque chose du genre. C'était assez intense, mais elle a comme vraiment passé par-dessus. Puis, un peu aveuglée par l'amour, elle a continué dans la relation. Notamment à sa fête de 19 ans, c'était comme la première fois qu'il y a comme eu une altercation entre les deux. Elle avait un œil au bord noir. Ça faisait comme un an qu'ils sortaient ensemble seulement. Mais après ça, ils se sont quand même mariés. Vraiment, la première dispute là, qui a mené, on pense là, vraiment aux événements du 12 juin 1994, c'est une dispute qui est survenue au jour de l'an en 1989. En fait, c'est pendant la nuit. Il y a eu un appel au 911 et quand les policiers sont arrivés, ils ont vu Nicole Brown Simpson sortir des buissons avec seulement là, des sous-vêtements puis des pantalons de jogging qui avaient super froid, qui étaient là, visiblement blessés au visage. Puis finalement, pour la première fois, elle a porté plainte contre son mari, O.J. Simpson, à cause qu'il l'avait battue. Donc, ça l'a vraiment, là, ça a vraiment choqué, en fait.
Donc, c'est
ça
lui qui...
Ça n'a pas été tant médiatisé comme partie, mais il y a encore l'appel du 911 qui est disponible. Si on fait des bonnes recherches là, sur
ah,
le
ouais,
réseau,
okay.
C'est assez impressionnant, là, puis c'est assez frappant, je dirais.
Est-ce que c'est sa femme qui a appelé le 911 ou c'est quelqu'un
c'est
qui l'a
elle qui a
vu?
appelé le
Okay.
911, mais c'était pendant la dispute, fait qu'elle n'a pas pu parler vraiment. T'sais, il entendait juste des bruits de quelqu'un qui se faisait frapper. Donc, ils sont intervenus sur les lieux. Et ben là, il était comme c'était pendant la nuit. Fait que les deux étaient comme en pyjama. Fait que là, le policier est allé voir O.J. Simpson. Ils ont dit, ben, voulez-vous, monsieur, aller vous rhabiller, puis on va vous emmener au poste de police. Évidemment, il s'est sauvé. Fait que c'est ça. Fait que ça n'a pas mené à grand-chose de ce côté-là. Mais lorsque les policiers sont revenus au centre, là, ils ont dit, ben, est-ce qu'il y avait déjà un historique? Parce que quand ils sont arrivés sur les lieux, autant O.J. que Nicole disaient que ça faisait comme 7 fois qu'ils avaient appelé la police, qu'ils n'avaient jamais rien fait. Personne n'a jamais ouvert la bouche, rien dit. Parce que justement, comme j'ai parlé tantôt, le LAPD était connu pour protéger les célébrités. Ben, imagine-toi donc que O.J. Simpson invitait la plupart des policiers à des parties piscines. Donc, c'était vraiment là, évidemment,
Donc déjà là,
il n'allait pas vendre O.J. Simpson du fait qu'il était invité à sa maison. C'est comme un gros domaine. Il ne voulait pas perdre ce privilège-là. Fait que ça,
c'est
vraiment, ça
fou.
part bien.
C'est fou, tu veux qu'on s'en aille au party d'OJ?
Non, c'est ça, exactement.
Il est cool, là, tu sais. Je ne vais pas
tout le monde
me
n'a pas les bonnes priorités,
dos,
mais ouais. Puis, finalement, en 93, ça, c'était un an après le divorce de Nicole et OJ. OJ s'est pointé à la maison de Nicole Brown Simpson et a vraiment comme... Il a essayé de rentrer par infraction dans la maison. Il tapait dans la fenêtre, il a tout essayé de faire parce que vu qu'elle était en compagnie de son petit chum de l'époque, et vraiment dans un élan de jalousie, il a comme vraiment, là, il a essayé de défoncer la porte, il a rien qu'il a pas essayé de faire. Puis là aussi, un appel au 911 qui a été fait, on l'a encore disponible là, sur Internet. C'est vraiment, là, tu sais, on voit que c'est une femme qui a hyper peur, puis à plusieurs reprises, elle a dit, je pense qu'il va me tuer un jour. C'est vraiment, là, c'est vraiment frappant. Mais ouais, donc ça, c'est la dernière dispute
Mais
qu'il y a eu un
là,
appel au 911 en 93, un an après avant son décès, en
tu
fait.
dis, dans le fond, ils n'habitaient pas ensemble, t'es séparés?
Non, c'est ça, en fait, ils se sont mariés là, en 85 et ils ont eu un divorce là, en
OK.
92. Mais entre-temps, ils sortaient ensemble, tu sais, de temps à autre, mais c'était rien de sérieux. Ils étaient vraiment divorcés, donc ils n'habitaient plus ensemble à ce moment-là.
OK, comme quand on dit qu'il a tué sa femme, dans le fond, c'était plus sa femme quand il l'a
Ouais,
tué, c'est
c'était
ça?
son
OK,
ex-femme,
pour
ouais.
clarifier les
Mais
choses,
tu sais,
OK.
ouais. Mais vraiment, tu sais, c'est comme tout le monde les associe ensemble, donc c'était
OK.
comme si c'était encore sa femme, tu sais. Lui, il était vraiment en amour encore avec, puis c'est ça. On n'était pas, comme, pas capable de différencier les deux, tu sais. C'était un couple qui était connu, qui était célèbre. Fait que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il parle de comme si c'était la femme d'OG, mais en fait, c'est son ex-femme.
Donc, même sur la scène publique, on les associe encore ensemble, même s'ils n'étaient plus ensemble.
Exactement.
C'est comme si on associait encore Justin Trudeau avec Sophie Grégoire, même si elle est sortie
Quasiment,
ensemble. C'est
exactement.
ça, ça ferait pas de sens. Là,
Ouais.
mais OK, c'est quand même assez spécial de savoir ça. Ça arrive pas souvent, je pense, que dans les
Non, c'est
médias
ça.
qu'on...
Mais tu sais, ils ont
qu'on
quand même été ensemble pendant, je crois, 17 ans.
OK, c'est sûr que...
C'est quand même une grosse relation, là. Tu sais, ils ont été ensemble pendant environ la moitié de sa vie à Nicole Brown Simpson. Donc, c'est important, là.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, tu sais, vu qu'elle était vraiment jeune, mais ouais.
Donc, il y avait aussi un épisode qui s'appelle le Bronco Chase.
Oui.
Tu pourrais-tu nous en parler un petit peu plus
Oui,
pour
certainement.
que le monde puisse savoir c'est quoi?
Ça, en fait, c'est surtout le pourquoi que c'est un cas qui est aussi connu puis que les gens s'en rappellent. Ça, en fait, la Bronco Chase, c'est lorsque O.J. Simpson a pris la fugue suite à son accusation là,
Qu'est-ce
du
qu'on a
meurtre
parlé
de Nicole Brown
tantôt? Ah
Simpson.
non, c'est un
Exact.
autre.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça s'est passé le 17 juin 1994. À l'époque, encore une fois, vu que c'était une célébrité, il y avait une espèce de privilège qui s'est installé entre le LAPD et O.J. Simpson. Donc, ils ont dit, on va venir vous arrêter à une certaine heure, comme si c'était un rendez-vous, mettons. C'est vraiment okay, comme si c'était un rendez-vous chez le médecin. Donc, à 11h, on va venir vous chercher, soyez prêts, soyez... Ce qui est assez particulier,
ça arrive. Hein,
c'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, cette journée-là, en fait, le matin, avant que la police vienne le chercher, OG avait vraiment, là, il était dans un mauvais état d'esprit, vraiment dans des pensées suicidaires. À cette époque-là, il habitait chez un de ses avocats, qui est Robert Kardashian, qui est connu comme étant le père des fameuses Kardashian encore aujourd'hui. Donc, il habitait chez lui, puis il se sentait vraiment pas bien, puis là, justement, des grosses pensées suicidaires, puis il s'enfermait dans certaines pièces, puis il voulait vraiment pas. Et puis, finalement, il était supposé se livrer à 11h. Ça s'est jamais fait. Donc, la police a fait une conférence de presse pour annoncer qu'il était supposé se présenter. Ça s'est jamais fait. Et donc, c'est un fugitif de la loi et que la police cherche activement pour lui. C'est comme une chasse à l'homme. Là, tout le monde est capoté.
Une chasse à l'homme, entre guillemets, parce qu'ils ont comme fait exprès pour qu'il puisse s'en aller.
Genre, ouais, mais c'est ça.
On lui a dit qu'on allait être là à cette heure-là. C'est clair qu'il est pas là.
On s'y attendait un peu. Mais non, à ce moment-là, les gens savaient vraiment pas il était où. En fait, il était parti avec son ami d'enfance, un de ses très bons amis, A.C. Cowling, ce qui s'appelait. Donc, ils ont pris la fuite avec la Bronco, là, la voiture de O.J. Simpson. Et parenthèse, là, c'était vraiment une voiture assez populaire à l'époque. Et c'est comme une coïncidence qu'en 1995, ils ont arrêté d'en produire, et ce, jusqu'en 2020.
OK.
C'est qu'en tout cas,
y a-t-il un rapport avec ça, vu que c'était en 1994?
Ils l'ont jamais dit officiellement, mais tu sais, ça allait comme donner une certaine publicité là, à la voiture, mais négative, je dirais, vu que justement, ça a été une poursuite policière qui a été là, suivie pendant toute une soirée au complet. Ça s'est passé un vendredi soir, donc ça a été visionné, là, si je me rappelle bien, par 95 millions de foyers américains. C'est plus de visionnement que le Super Bowl de cette année-là. Pour donner une idée, là, tout le monde était rivé devant leur télévision. Les ventes de pizza ont augmenté. C'était comme...
aïe, aïe. C'est pas drôle.
Mais c'est ça exactement. Donc, tout le focus était sur la Bronco spécifiquement. Puis ils ont finalement là, réussi à trouver la Bronco qui roulait sur l'autoroute. Ça a duré à peu près 1h30. Puis les gens, ils pensaient vraiment que ça allait vite. Mais finalement, non. Il allait peut-être là, à 70 km/h, OG. Donc, mais en fait, c'est son ami AC qui conduisait la voiture. OG était sur la banquette en arrière. Et on voit les images là, sur Internet, là, les vidéos. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine de voitures de police qui suivent OG Simpson. Plusieurs hypothèses qui sont énoncées. Il y en a qui pensent qu'ils s'en vont au Mexique. D'autres qui pensent que OG se dirige vers la tombe de son ex-femme. Donc, toutes les possibilités sont envisagées. Puis là, il y a un appel du 911 qui se fait. En fait, il y a un appel qui relie là, la voiture de OJ au policier. Donc, c'est comme une espèce de négociation qui s'entame. OJ, encore là, dans des pensées suicidaires, se pointe un fusil à sa propre tête. Donc, vraiment, tout le monde a peur. Mais tu sais, encore une fois, vu que OJ, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à la célébrité puis à sa personnalité. C'est quand même quelqu'un d'assez narcissique, là, je dirais. Ben vraiment, la police a réussi à calmer justement là, ses pensées intenses-là en lui disant « Il y a tant de personnes qui tiennent à toi. T'es vraiment quelqu'un d'important. » Tu sais, mettre le...
Il y a plein de monde qui te regarde, là, à TV.
Mettre l'accent sur lui, exactement. Puis finalement, ben, ça s'est résumé en lui qui se dirige vers sa maison à Rockingham. Et là, on voit là, des centaines de personnes, des fans d'O.J. Simpson qui sont là avec des pancartes puis dire « On t'aime, on sait que t'es innocent. » Fait que,
c'est fou, hein?
Justement, c'est ça, le boosté son estime de lui-même, exactement. Puis après ça, il s'est stationné chez lui. Ça a pris là, à peu près 3 heures avant qu'il sorte de la voiture parce qu'il voulait pas que, justement, les personnes dans la rue voient. T'sais, il a attendu qu'il fasse noir avant de sortir de la voiture puis se faire arrêter. Finalement, ça a vraiment été un long processus, mais pendant ce temps-là, tout était télévisé. Les hélicoptères, justement, qui projetaient les images... Tous les Américains étaient rivés sur leur télévision. Ça a vraiment été un moment historique. Il n'y a jamais une poursuite policière qui a été autant visionnée de l'histoire.
Ah, c'est clair. C'est ça parce qu'à cause de la célébrité, tu sais, je veux dire, ouais. Une personne normale n'attend pas 3 heures pour sortir. Les policiers vont aller le chercher. Là.
Non, alors, c'est ça exactement. Mais tu sais, il a pris la fuite. Puis le timing aussi, tu sais, c'était vraiment. C'était un vendredi soir.
C'est quasiment stagé, là. Tu sais, je veux dire, c'est filmé pendant 1h30. À un moment donné, tu le sais qu'il va se faire pogner, là. Tout le monde le voit, tu sais, il peut pas s'en aller, genre, mais.
Exactement.
C'est la première fois que j'entends parler de ça.
Oui, c'est vraiment marquant, là, parce que nous, en tout cas, moi, j'étais pas née, mais mes parents s'en rappellent encore. Là, c'est vraiment marquant. Là.
Ah,
Mais
ça
ouais.
devait, ça devait, c'est sûr.
Ouais.
Donc, c'est temps qu'on a établi les bases un peu de qu'est-ce qui se passait autour. Je pense qu'on peut aller dans le processus juridique un peu du procès. Donc, c'est qui les personnages, tu sais, les personnages clés, si on en a parlé de quelques-uns, tu sais, il y a OJ, il y a sa femme, puis il y a son
Ouais.
ami AJ, puis il y aura des policiers, tu sais, puis il y aura des avocats, peut-être aussi, qui sont importants.
Ouais, c'est ça. Ben moi, je voulais plutôt mettre l'emphase là, justement sur les avocats. Donc, premièrement, ben, il y avait Marcia Clark, qui était la procureure de la défense, la procureure en fait de l'État dans cette situation-là. Donc déjà là, c'était quand même assez rare que c'est une femme qui prend le lead dans un aussi grand cas, un cas avec une grande célébrité en fait. Donc c'est elle qui représentait l'État dans le procès d'O.J. Simpson. C'était une femme qui était dans la quarantaine, plutôt jeune dans sa carrière, mais qui avait vraiment bâti une excellente réputation. Par le passé, là, elle avait gagné un cas où que la seule preuve, c'était une seule goutte de sang. Pour te donner une
Ah,
idée,
OK.
là, c'était vraiment...
Elle connaît son domaine.
C'est ça, elle était vraiment très, très bien connue. Puis, en fait, ça l'opposait, était opposée à la Dream Team, qui est communément
La
appelée
Dream
comme
Team.
ça. Ça, c'était l'équipe de O.J. Simpson, d'avocats. C'était composé notamment là, de Bob Shapiro, pardon, qui lui a été connu là, pour défendre de nombreuses célébrités. Lui, il signait des contrats, mais il n'a jamais vraiment plaidé en cour, notamment dans un cas de meurtre comme ça. Ça n'avait jamais été le cas pour lui. Puis, il était plutôt vieux, là, donc il y avait Bob Shapiro, il y avait Robert Kardashian, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, qui est le père des Kardashian, et plusieurs autres avocats qui avaient vraiment là, une importante notoriété. Puis qui était connu dans leur domaine, il était excellent. Finalement, dans son équipe, celui qu'on s'attendait pas vraiment, mais qui a pris le dessus, puis que c'est vraiment lui qui était à la tête de l'équipe, c'est Johnny Cochran, qui a vraiment, lui, depuis qu'il pratique le droit, c'est un activiste dans le Civil Rights Movement qu'on a parlé tout à
OK,
l'heure.
ouais.
Lui, en fait, il a commencé à pratiquer le droit au moment où les Afro-Américains pouvaient même pas le faire. Donc, c'était assez impressionnant, là. Il se présentait en cours. Puis il parlait à un homme blanc à côté de lui qui, lui, plaidait devant la cour. Il pouvait pas s'adresser lui-même devant le juge.
Aïe, aïe.
Fait que lui, tu sais, il a vraiment là, de la grosse expérience derrière lui. Tu sais, il a un grand bagage. Puis il comprend là, les enjeux raciaux à cette époque-là. Donc c'est lui qui a pris le dessus là, de l'équipe. Et c'est vraiment lui, aujourd'hui, quand on tape, mettons, procès d'O.J. Simpson, avocat de la défense, c'est vraiment lui qui ressort parce que c'est vraiment. Il a fait briller, en fait, là. Puis c'est à cause de lui, vraiment, que O.J. Simpson a pu s'en tirer.
Ah, c'est quand même drôle parce que tu dis qu'il a été défendeur des Civil Rights,
Ouais, fait que c'est
mais
vraiment...
il défendait O.J. Simpson en même
Ouais,
temps,
ben
qui
c'est
était
ça.
pas tant pour les Civil Rights.
Exact, c'est vraiment à cause de Johnny Cochran et de son bagage que ce procès-là s'est reviré vers un procès, là, axé sur les tensions raciales.
OK,
C'est
il a
vraiment...
amené cet aspect-là là-dedans.
Exactement, ouais.
OK, puis il a ignoré, c'est ça, comme tu disais tantôt, il a ignoré le fait qu'il était pas pour les Civil Rights, mais il a plus
Ouais.
mis l'accent sur...
Ben
Qu'il était
justement,
un Afro-Américain, puis
un
tout.
exemple
OK.
de ça qui m'a vraiment frappé quand j'ai écouté le documentaire là, que ben, je vais vous recommander plus tard, ça s'appelle O.J. Made in America. C'est un documentaire qui a été fait par TSN, donc la chaîne de sport. Mais il explique en fait dans ce documentaire-là que pendant le procès, ils ont amené le jury à la maison de O.J. Simpson pour différentes raisons, pour voir les lieux et tout. Mais justement, ça a été perçu comme un atout du côté de la défense parce qu'ils se sont préparés, puis ils ont vraiment modifié essentiellement la maison d'O.J. Simpson en...
Une autre affaire.
C'est ça, ils savaient que le jury s'en venait, puis ils savaient que ça allait pouvoir changer la perception de la célébrité. Fait qu'ils ont tout changé sa maison. En fait, il y avait comme une grande cage d'escalier qui menait à l'étage supérieur, puis c'était toutes des photos là, de O.J. Simpson avec des hommes blancs. Donc O.J. Simpson avec Donald Trump, O.J. Simpson avec plein de grandes célébrités comme ça, tu sais, mais blanches. Le mur, c'était juste ça. Ils ont tout enlevé les photos. Ils ont mis des photos de lui quand il était jeune avec son ex-femme qui était afro-américaine, avec tous des personnages afro-américains. Puis au-dessus là, de la cage d'escalier, en gros, ils ont mis la peinture de Ruby Bridges. Je sais pas si tu connais.
Non, je connais pas.
C'est vraiment, c'est marquant là, comme peinture. C'est en fait une illustration de la première petite fille qui va afro-américaine qui va à l'école.
Ah, OK. Je
C'est que c'est vraiment là.
pense que ça devait être important comme
Ça évoque
peinture.
un grand message là, pour la communauté afro-américaine. Fait que quand le jury a vu ça, en fait, OK, wow, c'est quelqu'un qui tient vraiment à ses racines, justement à ce niveau-là, mais ouais, c'est juste pour changer l'image qu'en fait. Mais ils sont allés jusqu'à changer sa maison là, pour montrer cette perception-là.
C'est drôle, plus tu m'en parles, plus je me dis c'est sûr qu'il allait gagner O.J. Simpson, parce que on dirait que tout est arrangé depuis le début. C'est quasiment comme si c'était un film, là. Genre, tu sais,
Quasiment,
la maison est arrangée,
exactement.
il y a la poursuite, là, il y a toutes les affaires avec les policiers, puis il y a la Dream Team, là, avec le... Tu sais, je veux dire, quand...
Non, c'est.
C'est fou, là. On voit pas ça tout le temps, là, genre...
Vraiment,
Comment
non,
ça peut
c'est.
arriver, là, tout ça, là. C'est vraiment à cause de la célébrité de O.J. Simpson, là, que ça
Essentiellement,
arrive,
oui.
là.
C'est la célébrité, puis c'est ça le contexte racial, comme une addition des deux. Parce que, comme on va en parler tout à l'heure, là, au niveau de l'enquête, toutes les preuves mènent à ce que O.J. Simpson a commis les meurtres. Vraiment, là. Mais encore aujourd'hui, là, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, vu que O.J. Simpson est décédé en avril dernier. Donc,
Ah, ok, ah
on
oui,
pourra
bon.
jamais savoir, malheureusement. Mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment, là, d'un bord, on se dit, ben, tabarouette, c'est clair qu'il était acquitté parce que vraiment, à cause du contexte. Mais de l'autre côté, toutes les preuves montrent que c'est lui qui l'aurait fait, là. Fait que c'est vraiment.
C'est ça qu'on
Ça, c'est
voit,
fascinant comme histoire.
justement, comme on étudie le droit, puis après on peut voir que justement le droit, ça doit être comme impartial, tu sais, il faut vraiment comme y aller avec les... La législation qui a été établie, la jurisprudence, pis t'sais, c'est un peu touché, t'sais. Même si tu te dis, ah, ben là, c'est sûr que c'est lui, c'est probable, mais faut que t'ailles les preuves, faut que t'ailles les lois qui l'appuient. C'est pour ça qu'il y a comme des fois une dichotomie entre la réalité et qu'est-ce que le droit va faire des fois, puis on voit que ça, c'est comme un exemple flagrant
Vraiment.
de cet aspect-là du droit, là.
Exactement. Puis, tu sais, on voit là, justement dans le procès à quel point que Marcia Clark, c'est elle qui doit prouver essentiellement la culpabilité de O.J. Simpson. Elle s'est tellement battue à montrer là, tu sais, toutes les preuves qui étaient flagrantes. Elle a amené des spécialistes en cour pour expliquer l'ADN notamment, là, qu'est-ce que ça jouait, ben, en fait, qu'est-ce que ça représentait. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, mais finalement, c'est le contexte là, qui a remporté. Fait que vraiment.
En tout cas, j'ai déjà hâte de continuer d'en parler après la pause. On est déjà rendu là. Ah oui, ça va vite parler du procès d'O.J. Simpson. C'est tellement surprenant tout ce qu'on parle. Donc, on va vous attendre après la pause pour pouvoir parler, ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant le meurtre et tout le procès juridique. Donc, vous étiez sur A priori, sur les ondes de chez 94.3. Donc, on est en train de parler du procès d'O.J. Simpson avec Caroline. Donc, on va reprendre. On parlait des personnages clés du processus juridique. Là, maintenant, on va parler un peu de... Qu'est-ce qui s'est passé le jour du meurtre? Tu pourrais-tu nous en parler un peu plus en détail?
Oui, certainement. Il y a quand même vraiment là, une chronologie qui est super importante en lien avec la journée des meurtres. Tout d'abord, à savoir que ben, ça n'a pas vraiment pu servir de preuve en cour parce que malheureusement, il y avait des messages qui ont été supprimés entre-temps. Mais la journée des meurtres, le 12 juin 1994, la copine de O.J. Simpson l'a laissé le matin. Déjà là,
Ok,
c'est.
donc il y avait une autre femme dans l'histoire.
Ouais, c'est sa copine de l'époque, là, pendant le temps qu'il était divorcé, là. En tout cas, c'est ça. Donc, elle l'a laissé par téléphone et donc il a comme enregistré le message sur le téléphone cellulaire d'O.J. Simpson, mais par la suite, ils ont comme supprimé là, la preuve à cet égard. Mais c'est ça. Bon, à savoir que déjà là, O.J. Simpson avait comme. Il a été surpris là, le matin du 12 juin par cette rupture-là essentiellement. Donc, le 12 juin 1994, Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman ont été assassinés à la résidence de Nicole Brown Simpson. Donc, en soirée, aux alentours de 22 heures, selon les analyses. Ils ont été retrouvés par la voisine et le voisin de Nicole qui prenaient une marche avec leur chien, tout simplement. Et ils ont comme vu un autre chien arriver. Par surprise, c'est qui jappait sans cesse, qui avait du sang sur ses pattes.
Ok, ouais.
Ça s'avérait être le chien de Nicole et de ses enfants. Donc, ils sont comme rendus sur les lieux, puis ils ont vu Nicole qui était pratiquement, excusez-moi les détails, là, pratiquement décapitée.
Ouf.
Et plus loin, Ronald Goldman, là, qui était lui aussi, là, il avait été vraiment poignardé de nombreuses fois, puis qui était comme accroché sur une clôture. En tout cas, donc c'est vraiment là,
Ok.
assez graphique, mais ils ont vraiment été, c'est ça, là, poignardés les deux au couteau. Donc, en fait, Ronald Goldman, c'est pas quelqu'un qui a vraiment été tant connu, là, dans. C'était pas vraiment une célébrité, ni rien. C'était en fait un ami de Nicole Brown Simpson. Donc, en fait, pour reconstituer les faits, le 12 juin, c'était un récital de danse de la fille de Nicole et de OJ. Donc, après ça, ils avaient comme planifié d'aller au restaurant. OJ n'était pas invité, du fait que c'était maintenant l'ex-mari. Donc, ils sont allés au restaurant avec les grands-parents, la petite famille proche et Nicole Brown Simpson. À ce moment-là, au restaurant, ils ne se sont pas rendus compte, mais la mère de Nicole a échappé ses lunettes, les a oubliées au restaurant. Donc, en soirée, vu que Ronald Goldman, qui était le serveur dans le restaurant, connaissait Nicole, il est allé lui porter les lunettes en question à son domicile. Et c'est là que il était là vraiment au mauvais moment, vraiment, malheureusement. Hein. Puis ça s'est passé justement les meurtres. Donc, c'était vraiment quelqu'un aussi, Ronald Goldman, de très, très jeune, avec le futur devant lui. C'était un aspirant mannequin qui était justement serveur dans son restaurant, qui planifiait s'en ouvrir un. Il avait seulement 25 ans. Donc, il est très, très jeune. Vraiment. Et c'est ça. Donc, ça, c'est la version pas mal. Là. On voit ici dans les lunettes de Nicole Brown Simpson. Mais du côté à OJ, comme mentionné précédemment, il vient de se faire laisser par sa copine, qui, elle, s'est envolée là, pour aller rejoindre un autre gars.
Elle s'est libérée de OJ Simpson.
C'est ça, exactement. Et lui, justement, il n'a pas été invité au restaurant. Déjà là, une certaine frustration qui s'est placée en lui. Puis une certaine jalousie aussi. C'était quelqu'un qui était très jaloux, en général. Là. Donc, en soirée, il décide d'aller aller souper avec son ami Kato Keeling, qui était un acteur aussi à l'époque, qui habitait dans sa maison d'invité. Donc, ils sont allés au McDo ensemble. C'est ça, ils sont allés au McDo ensemble prendre un burger et tout. Puis finalement, aux alentours de 23h30, Kato Keeling a entendu comme quelqu'un cogner ou vraiment là, sinon foncer dans quelque chose, mais derrière sa porte, derrière sa petite maison en fait. Il a comme entendu un assez grand bruit. Il s'est dit « Tabarouette, c'est quoi ça? » Finalement, mais il ne s'est pas tant posé de questions. Donc, il entendait vraiment des bruits bizarres, comme quelqu'un qui cognait sur un mur, peu importe. Ça a comme passé. Puis, O.J. Simpson, lui, il s'est envolé là, pour Chicago, vu qu'il y avait un tournoi de golf le lendemain à 23h30. Donc, okay. Si on peut établir certaines lignes de temps, 22h, les meurtres ont été commis, 22h30, des bruits qui ont été entendus à la résidence d'O.J. Simpson. Et finalement, 23h30, il s'est envolé là, pour Chicago. Donc, entre-temps, puisque les voisins de Nicole l'ont découvert, le corps de Nicole et Ronald Goldman, la police est intervenue sur les lieux. Ils ont trouvé une quantité énorme de sang, évidemment, sur les lieux. Ils ont aussi trouvé un gant, chose qui est vraiment très important.
Le fameux gant.
Exactement.
Il était trop petit.
Donc, ils ont retrouvé un gant sur les lieux, couvert de sang. Et puis là, ils se sont rendus compte, ils sont rentrés dans la maison de Nicole Brown Simpson et ils ont réalisé, tabarouette, c'est l'ex-femme de O.J. Simpson, la célébrité du football. Donc, ils se sont dit, je pense qu'on devrait peut-être aller sur les lieux. Le policier en question qui a décidé d'aller voir la résidence d'O.J. Simpson, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire, un détective du nom de Mark Furman. Donc, lui, il avait déjà été invité à un party de piscine, évidemment. Donc, il savait c'était
un autre.
Donc, il a pu se rendre sur les lieux. Il arrive chez O.J. Simpson. La voiture, la Bronco, qu'on parlait tout à l'heure ensemble, stationnée, là, hyper croche. Quasiment, là, en plein milieu de la rue. Là. C'est quelqu'un qui s'est garoché pour se parquer, clairement. Donc, c'était pas tant... c'était pas mal inhabituel, je dirais. Sur la voiture, ils ont trouvé des traces de sang. Donc, déjà, là, ils se posaient des questions. Ils essayent de sonner parce qu'il y avait une barrière là, avant de rentrer dans la maison.
Okay.
Sonne à la barrière, aucune réponse. Finalement, Mark Furman, qui était à l'époque plutôt mince et athlétique, a réussi à grimper sur la clôture, se retrouver à l'autre bord de la maison et cogner à la porte. À ce moment-là, c'est la femme de ménage, je dirais, qui a ouvert la porte et on lui a demandé « Est-ce que OJ est présent? » Elle a répondu non, il est parti prendre son vol pour Chicago. Finalement, ils sont allés voir derrière la maison où il y avait les maisons d'invités là, que je mentionnais tout à l'heure. Ils sont allés cogner chez Kato Keeling, demander justement si OJ était présent. Ils disent ah, je sais pas, je suis pas au courant. Ils disent par contre, j'ai entendu des bruits particuliers il y a quelques temps. Donc, ils ont mené l'enquête. Et aussi, à savoir que Mark Furman, en allant cogner chez Kato Keeling, il s'est trouvé, là, il y a comme l'air climatisé. En tout cas, c'était comme derrière la maison de Kilo et il y avait l'air climatisé, là, c'est comme un endroit assez restreint, je dirais. Il a trouvé un gaz similaire à celui qu'il a retrouvé chez Nicole. Donc, ils ont pris
Okay.
les deux preuves, ils ont comparé, ils ont finalement conclu que c'était deux gants qui formaient une paire essentiellement. Donc, déjà là, un lien assez important qui a été trouvé et qui par la suite a été mené en cour, là, qu'on connaît finalement. En fait, c'est pas mal ce qui a rendu le cas assez célèbre, là. La fameuse phrase de Johnny Cochran, If the glove doesn't fit, you must quit. Donc, c'est pas mal. Ça a vraiment été la preuve flagrante du cas. Mais finalement, c'est ça. C'est vraiment. Ils ont interrogé toutes les personnes qui étaient à la maison d'OJ à ce moment-là. Puis, ils ont toutes les preuves ont été, comme le sang et tout, ils ont été analysées. Donc, le lendemain matin, ben, c'est en fait pendant la nuit là, qu'ils ont fait l'enquête essentiellement. Le lendemain matin, ils ont dit ben là, on va appeler OJ Simpson, l'aviser que son ex-femme est morte malheureusement. Donc, ils ont appelé OJ, qui était à Chicago. Et bizarrement, il a répondu, ils ont dit malheureusement, là, votre ex-conjointe, Nicole Brown Simpson, est décédée. Il a dit comme quelque chose comme oh non, elle a été tuée. Ou ben, quelqu'un qui sait pas vraiment la situation, ne s'attendrait pas à dire ah, oh, elle a été tuée.
Ok,
C'est
genre
peut-être
de
qu'elle.
même,
Non, c'est ça, c'est peut-être qu'elle a fait
ouais,
un accident de
morte.
voiture, on ne sait pas, là. Mais en tout cas, déjà là, l'interaction était assez particulière. Il a dit, OJ a mentionné, il dit OK, ben, je vais prendre le premier vol pour Los Angeles, je veux répondre à toutes vos questions. Fait que là, justement, tu sais, il s'est rendu au centre de police. Là, c'est vraiment là que on se rend compte peut-être du pourquoi que O.J. Simpson a été acquitté, entre autres. C'est pas mal, je dirais, l'incompétence des détectives.
L'incompétence.
Ouais, c'est assez fort comme mot, mais tu vas comprendre sous peu. C'est comme vraiment l'incompétence des policiers qui ont interrogé O.J. En fait, ils l'ont amené là, dans la pièce pour l'interroger, le questionner sur les faits. Ça a duré 30 minutes. Chose qui est vraiment anormalement. C'est vraiment. C'est très court, je dirais, là.
Ok, d'habitude, c'est plus long.
Exactement. Ça peut durer une journée complète. Vraiment, là.
Ok.
C'est surtout quand c'est pour un meurtre. C'est assez important. Beaucoup. Tu sais, c'est vraiment. C'est à ce moment-là. C'est le seul moment où ils peuvent interroger O.J. Simpson sans son avocat, puis qu'ils peuvent avoir toutes les réponses, puis qu'ils peuvent après ça amener ça en cour comme preuve contre lui.
OK.
C'est vraiment là, tu sais, le gros du travail était là. Ça a duré, c'est ça, une demi-heure. Ils ont posé des questions. O.J. répondait très vaguement, mais au lieu de creuser davantage, il passait à autre chose. Fait que c'est vraiment là, c'est flagrant là, comment que le travail a été botché, je dirais l'expression, là, parce que il n'y a aucune réponse qu'on a pu tirer de cette analyse-là, de cette intervention policière-là. Il n'y a rien qui a pu servir à Marsha Clark par la suite à prouver en cour qu'O.J. Simpson était coupable selon ses propos.
Ouais,
Donc,
c'est...
puis déjà là, tu sais, comme j'ai mentionné précédemment, ils ont trouvé du sang sur la bronco, sur la porte. Puis habituellement, quand on ouvre une porte de voiture, c'est souvent avec la main gauche. On s'entend? Donc, puis le gant qu'ils ont trouvé à la maison de Nicole, je crois que c'était la main gauche ou peu importe. Donc, ça concordait. Et quand ils ont interrogé O.J. Simpson le lendemain, ils se sont rendus compte qu'il y avait une énorme coupe sur sa main gauche. Comme il était ouvert littéralement de la main. Donc,
Ok, par rapport, c'était son sang qu'il pouvait avoir sur
fort
la
probablement.
Bronco.
Chose qu'on conclut, en fait, ben, c'était le cas finalement, là, des analystes qui ont analysé l'ADN finalement, qui ont conclu que sur la scène de crime en soi, il y a du sang évidemment de Nicole Brown Simpson, de Ronald Goldman, mais aussi de O.J. Simpson. Et dans la Bronco, il y a du sang de O.J. Simpson et de Nicole Brown Simpson. Donc déjà là, ça en dit beaucoup sur la situation, mais donc il y avait une coupe sur sa main. Et ils ont comme les policiers ont pas vraiment creusé plus fort. Ils ont dit ah, comment tu t'es fait ça? Ils disent ah, quand vous m'avez appelé, j'ai comme un peu viré fou, j'ai cassé un verre. OK. Mais là, après ça, quand on retourne en arrière, on se rend compte que dans sa maison à lui, à OJ, quand les policiers ont pu entrer dans son domicile, il y avait du sang à grandeur, comme une trolley de sang. Comme une traînée vraiment, là, c'était. Justement, c'est
Il
le sang
saignait
traînant.
beaucoup de la main,
Oui, c'est ça, mais
hein.
c'était quand même une grosse plaie, je dirais. Donc, mais fait que déjà là,
C'est bizarre, là.
l'évidence, c'est ça, la preuve de sang qui a finalement été expliquée là, par des experts en ADN lors du procès, c'est pas mal là, le noyau qui aurait pu mener essentiellement à la culpabilité là, de O.J. Simpson, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aussi, là, ça me fait penser, on peut tout de suite en fait sauter là, au, peut-être plus aux détails de l'enquête. Là.
Ouais, ben si tu veux en parler, c'est ça.
Ben,
rentrer
c'est
plus
ça.
Dans les détails, là, parce que les bases sont mises, je pense qu'on peut continuer à avancer.
Exact, parfait. Donc, ben c'est ça. Donc, l'analyse qui a été faite de l'ADN en disait énormément sur qui pouvait être le coupable essentiellement. Et, mais déjà là, t'sais, l'aspect de l'ADN, c'est pas mal. À cette époque-là, c'était pas tant considéré comme une preuve valable en cours. C'est assez nouveau
Okay.
dans les preuves qu'on amenait là, justement au procès. Donc, ça a pas tant eu l'effet désiré, je dirais. Du fait notamment que le jury était composé de personnes pas mal là, du... C'était pas, mettons, l'élite de la société. C'est des personnes, justement, qui avaient peut-être moins d'éducation un peu.
OK.
Parce que quand ils vont vraiment recruter les jurés dans le cas d'un procès, ils vont dire le temps estimé. Donc là, ils ont dit, on prévoit que le procès va durer à peu près là, 6 mois. Donc, tu sais, c'est un grand engagement. Là, on va se dire,
Ah, c'est sûr.
Tu sais, un médecin, exemple, pourrait pas s'engager pour aussi longtemps. Donc, la plupart des personnes qui ont formé le jury étaient des individus qui étaient soit au chômage ou qui n'avaient pas vraiment des emplois, je dirais, mettons, importants aussi de première instance, là, comme exemple pour sauver
Mais
des vies, peu importe.
Qui demandaient de l'éducation, dans le fond.
Exactement.
Là, genre, pour comprendre un peu comment l'ADN et la recherche scientifique qui va avoir derrière, comment ça peut marcher.
Il
n'y
avait pas les connaissances requises pour comprendre
c'est
exactement.
T'sais,
qu'est-ce
en
que
plus,
l'ADN
c'était
peut
nouveau, comme
apporter?
tu dis. Fait que là, c'est sûr qu'il devait genre avoir plus de méfiance envers ça.
Assurément. Donc, tu sais, justement, eux, leur accord était davantage posé sur la personne en soi et non les preuves vraiment, là, notamment scientifiques, qui étaient apportées. C'était
OK.
plus sur la célébrité. À noter aussi que le jury était composé de 8 femmes afro-américaines. Fait que déjà là, comme qu'on parlait tout à l'heure ensemble, le contexte racial a eu
Le côté émotif.
Vraiment été là, prépondérant. Là, c'est des femmes afro-américaines donc qui comprenaient cette position-là, justement, d'être persécutées là, par notamment la police. Donc, ça a vraiment là, joué à cet égard-là en faveur de
Donc,
l'acquittement d'O.J. Simpson.
le jury, dans le fond, il était biaisé, là.
Oui, exactement. C'est ça qui est beaucoup reproché là, à ce procès-là. Malgré tout, il faut noter que ça a pris environ là, 3 mois à composer un jury.
Ah,
Ce qui est
ouais,
quand
OK.
même assez long, honnêtement, parce que, premièrement, tu sais, c'était une personne qui était hyper célèbre. C'est un cas qui avait été médiatisé hautement. Tu sais, la Bronco Chase qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, tout le monde était au courant. Fait que, déjà là, les gens étaient un peu biaisés. Mais, tu sais, le juge, comme il n'a pas le choix de faire à tous les cas, il dit, vous devez agir de manière impartiale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc,
C'est encore arrangé, là, parce que d'habitude, un juré, tu sais, déjà, tu me dis que c'est des personnes qui sont plus dans la basse société, mais ça représente pas la société. T'sais, un jury, c'est supposé représenter la société en général. C'est ça le principe du juré.
exactement.
Parce que c'est la société qui va juger le crime, pas juste une série d'individus qui se ressemblent toutes puis qui sont pareils. Tu sais, ça défie toutes les règles, dans le fond, d'existence du juré. Dans le fond, ça vient tout de.
Exactement, oui.
Ça enlève son sens, là.
Assurément. Vraiment. Puis, ça fait que ça a vraiment. Ça a eu vraiment un grand impact là, sur la décision rendue finalement là, par le jury, essentiellement. Là. Ouais. Donc, en lien avec ça, on pourrait peut-être passer directement là, aux détails du procès, chose qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-là. Ça te va?
Ouais, ça me va, écoute, là, tu prends le lead, que moi je t'écoute.
Parfait. Donc, c'est ça. Le procès au total a duré 9 mois. Il avait prévu 6 mois. Donc, ça a débordé un petit peu, je dirais, dû au nombre de témoins qui se sont présentés. C'est assez fulgurant, là. Il y a de mémoire là, environ 150 témoins qui ont été appelés à témoigner là, durant le procès, ce qui est
C'est quand même
énorme.
beaucoup, ouais.
Ça exclut O.J. Simpson, par contre. Notons ça, là, il n'a jamais parlé une fois pendant son procès.
OK, donc
Fait que, ouais.
c'est ça, il a pas témoigné pour lui, puis
Non, c'est
d'habituellement, il
ça.
aurait dû le faire, là.
Ouais, ben c'est ça, c'était comme un choix qui était assez particulier, mais c'est ça qui a donné. Donc, ça a commencé, en fait, là, les procédures judiciaires ont commencé le 22 juin, où O.J. Simpson a été appelé à plaider soit non coupable ou coupable. Évidemment, il a plaidé non coupable. Donc, le procès par la suite débuté le 24 janvier 1995, suite à l'assemblage là, du jury qu'on parlait tantôt, justement. Après ça, ça a été décidé aussi que ça allait être un procès télévisé, donc ce qui était relativement rare à l'époque. Fait que c'était télévisé là, de tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours en fait, qu'il y avait là, la séance qui se produisait, c'était télévisé, donc tout le monde pouvait regarder en temps réel ce qui se produisait en cours et baser leur opinion là-dessus. Donc évidemment, c'est sûr que ça a vraiment participé là, à la polarisation, je dirais, là, dans la société
Mais il y a sûrement beaucoup de monde qui ont écouté ça, comme le Bronco Chase, là, sûrement.
Exact, c'est vraiment
ça. Beaucoup de commandes de pizza.
Oui, c'est ça. Mais ça a vraiment le séparé, en fait, deux populations. Ça a vraiment eu, malheureusement, comme effet de séparer la communauté blanche et la communauté afro-américaine de la Californie, mais aussi d'une bonne partie des États-Unis, vu que c'était pas juste en Californie là, que c'était diffusé. Donc, les procédures ont débuté en janvier, avec l'enquête qui avait été finalement achevée. Puis, ils ont vraiment, dès le départ, ils ont joué la carte du contexte racial. Donc, c'était Johnny Cochran qui a fait je veux dire en anglais, le opening statement. Donc, okay. Il a vraiment parti le bal. Ça, c'est du bord de la défense et du bord, en fait, de l'État. C'est pas Marcia Clark qui a commencé, même si c'était elle qui était à la tête, mais c'est plutôt un autre avocat qui était plutôt jeune, lui, dans la trentaine, peu d'expérience, mais ils l'ont amené là, pour faire le opening statement du fait qu'il était noir, donc qu'il était afro-américain.
OK, hey, c'est vraiment...
Ils ont vraiment misé là-dessus à fond. Donc, ça s'est vraiment traduit dès les premiers jours du procès, essentiellement.
C'est fou, parce que ça n'a même pas rapport avec les tensions raciales. Ça a vraiment été amené...
Non, c'est ça, c'est vraiment...
Dans le procès, de même.
Exactement. Mais tu sais, c'est ça, ils ont vraiment... C'est vraiment l'aspect racial qui a dominé dans ce procès-là. Tantôt, on parlait surtout là, du policier Mark Furman. Lui, c'est quelqu'un aussi qui... C'est un individu que ça l'a pas vraiment aidé là, à prouver la culpabilité d'O.J. Simpson du fait que, en fait, Mark Furman a été présent du début à la fin du cas d'O.J. Simpson. Et lui, en fait, il était connu comme étant un policier très raciste.
Okay.
Donc, ouais. En fait, lui, il a témoigné. Puis il a dit, ben non, j'ai jamais dit, mettons, exemple, le N-word. Comme, il dit, j'ai toujours été respectueux. Puis oui, j'ai intervenu sur les lieux d'O.J. Simpson, mais de manière juste et raisonnable. Jusqu'à là, ça a vraiment bien resté. Jusqu'au moment où, quelle coïncidence, l'auteur du livre que, justement, j'ai beaucoup utilisé comme source là, dans ce podcast-ci, donc Jeffrey Toobin, qui était un analyste juridique pour CNN à l'époque. Donc, il a écrit le livre là, suite au procès The Run of His Life, The People versus O.J. Simpson, qui a été par la suite adapté en série télévisée. En fait, lui, c'est un avocat, mais un analyste juridique. Il a fait des recherches, puis il a trouvé des preuves transcrites où Mark Furman dit ouvertement le N-word et exprime des propos hyper racistes dans ses comptes rendus, dans ses rapports de police, en fait, qu'il a remplis dans les dernières années. Alors, Jeffrey Toobin a amené ça à Bob Shapiro, qui est un acteur important dans l'histoire, là. Un des grands avocats pour O.J. Simpson. Il a dit, voici la preuve. Donc, ils ont pu montrer essentiellement en cours que Mark Furman était un individu hyper raciste et que, il y a une théorie qui a été amenée, qui était que Mark Furman aurait peut-être planté le gant dans la maison d'O.J. Simpson.
Et donc, c'est ça.
Il aurait peut-être essayé là, de montrer que c'était O.J. Simpson qui avait commis les meurtres, alors que c'était aucunement le cas. Donc déjà, ça a vraiment tourné dans la tête des jurés énormément. C'est ça. Donc, c'est quand que le policier, pas mal à la tête de l'investigation, ben de l'enquête, là, je dirais, est raciste, ça en dit beaucoup sur le cas. Donc,
C'est encore stagé, dans le fond. Puis là, ils ont inventé une histoire pour le jury. Puis vu qu'il était moins éduqué, c'est plus facile de faire croire des histoires.
Ils ont misé là-dessus, exact.
C'est tout arrangé dans l'avantage de O.J. qu'on se rend compte de ça encore une fois. Ça fait genre 5 fois je le dis, mais...
Ouais, mais c'est ça exactement. C'est vraiment là... Puis ça me fait penser aussi, on peut aussi affirmer là-dedans que c'est comme si O.J. Simpson avait acheté son innocence. En quelque sorte, parce que il a dépensé, de mémoire, là, il dépensait, si c'est pas, à peu près là, 150 000 $ par semaine pour son équipe d'avocats.
Ouais, la Dream Team.
C'est
Ouais.
du fait que c'est un homme qui était hyper riche et influent, il a pu se permettre d'avoir accès aux meilleurs avocats
Mais
qu'il n'avait
c'est ça.
pas. Fait que de par là, il a vraiment pu, en quelque sorte, acheter son innocence parce qu'il y avait les meilleurs qui se battaient pour lui. Donc vraiment.
Mais c'est ça, parce que vu que sa richesse était élevée, son coût de renonciation était assez bas. Et puis après, vous allez comprendre un petit peu
Petite
l'économie.
référence.
J'aime ça l'économie, j'aime ça d'en parler pour les billets après, ça me sous-aimait pas ça.
Mais donc c'est vraiment là, c'était vraiment un amalgame de tout, mais finalement l'attention s'est dirigée vraiment vers le contexte racial, comme on a mentionné à plusieurs reprises. C'est vraiment Mark Fuhrman, ses propos l'ont trahi là-dedans. Et il témoigne justement là, dans le documentaire O.J. Made in America que je mentionnais tout à l'heure. Il dit « J'ai appris de mes erreurs et tout, mais malheureusement, c'est vraiment ça qui a été retenu lors du procès. » Puis ça servirait contre lui. C'est comme s'il représentait en soi tous les corps policiers, mais, si on, mais c'était juste un individu en
Mais
soi.
ils ont juste pris un gars pas rapport, il avait pas rapport dans l'histoire, lui-là. Ils ont juste
Oui,
pris
ben,
un
c'est lui, il
policier.
était présent du début à la fin. T'sais, lui, il a vraiment il était là que les meurtres ont été commis jusqu'à la
Fait
fin.
qu'il était sur la scène de crime.
Exactement. Mais ça. Ouais. Mais ils l'ont vraiment associé à toutes les restes. Donc.
En fait, comme si, dans le fond, il avait modifié la scène de crime.
Ouais, pas mal. Ouais, c'est ça. Comme s'il avait pris un gant puis qu'il l'avait planté chez OJ pour dire, comme, moi, je suis tanné de lui, là, il devrait aller en prison.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais c'est fou parce que, tu sais, ils mettent l'aspect racial, les tensions raciales, puis tu sais que, ah, ben là, les policiers sont méchants envers les Afro-Américains, puis tout. Pis...
Ouais.
Mais c'est drôle parce que pour la fois que c'était vraiment lui là, qui l'avait tué, puis qui était en tort, ben là, il a été acquitté. Mais pour les autres fois, est-ce que c'était tout le temps, genre, les
Ouais.
policiers qui étaient en tort, mais non, ça c'était les policiers qui avaient raison, tu sais.
Exactement. Puis ça, c'est pas mal l'argument qui est amené là, de la part des jurés, parce que c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment une belle attention là, dans le documentaire, justement. Ils font témoigner quelques jurés. Ils disent, pourquoi vous avez dit que O.J. Était non responsable? T'sais, pourquoi? Puis la raison principale qui est amenée, c'est on voulait enfin une victoire pour le peuple afro-américain. T'sais, un peuple qui est tellement persécuté. Mais là, on sentait que c'était pas juste une victoire pour OJ, mais c'était une victoire pour la communauté en soi. C'est vraiment ça.
Ouais, une victoire qui était pas vraiment saine,
Non, c'est ça
c'est
exactement.
ça,
Parce
mais...
que, tu sais, en soi, il y a une femme innocente qui a été tuée. Là. Il y a un
Mais
homme
c'est ça,
totalement innocent qui était là au mauvais moment. Là. Mais ils n'auront jamais eu justice finalement. Autre que, justement, là, en 96, la décision, ben, en fait, ce litige-là a été amené dans un procès civil. Où O.J. Simpson a finalement été reconnu responsable des meurtres et il a dû verser une somme d'à peu près là, 30 millions de dollars aux familles de Nicole Brown et de
Ok, il y a un
Ronald
autre
Goldman.
procès au civil
Ouais, c'est
par
ça.
après avec d'autres preuves, sûrement, c'est ça?
C'est pas mal les mêmes preuves qui ont été apportées,
Ok.
mais là, c'était devant un juge simplement et non devant un jury. Donc, devant un jury, pardon. Donc,
Ok.
fait que là, à ce
Ça,
moment-là, il
j'étais pas au
était.
courant qu'il pouvait faire un autre procès avec les mêmes
Ouais.
preuves.
Ben parce que là, en fait, c'était pas l'État contre O.J., c'était les familles contre O.J. C'était comme
Ok.
un différent procès, mais ouais.
Ok, intéressant à savoir côté juridique américain.
Vraiment?
Donc, mon épisode, c'est déjà à sa fin. J'aimerais ça que tu puisses nous parler. Ben là, t'as parlé du livre The Run of His Life.
Oui,
Y
exactement.
avait-tu d'autres sources que t'avais utilisées pour nous parler, tu sais, des films, des séries qui pourraient être intéressants à écouter
Ouais.
pour en apprendre plus sur le sujet, qui pourraient être plus le fun? Parce que je sais que lire un livre qui doit genre 500 pages,
Ouais, non, ça c'est pas
ça doit
mal
pas
pour
être...
les fans,
C'est
je
ça, ça doit pas
dirais.
être intéressant pour tout le monde. Tu sais, on n'a
Mais
pas
c'est
tout
ça.
le temps non plus.
Mais c'est justement en lien avec ce livre-là, ça a été adapté là, par ça a été adapté là, par Hulu, donc Disney Plus, dans une série. C'est vraiment là, je l'ai pas écouté à présent, mais apparemment que ça résume très très bien le livre. Donc si je pouvais vous conseiller. Je vous le recommanderais fortement. Sinon, c'est ça, il y avait le documentaire O.J. Made in America, fort pertinent. C'est quand même long, je dirais, là, mais ça fait vraiment un très beau portrait de, tout d'abord, qui est O.J. Simpson, pourquoi il est célèbre, pourquoi c'est un héros américain en soi, sa relation, puis après ça, le processus juridique entamé là, en lien avec avec les meurtres. Et finalement, je dirais mon chouchou. Ça a été là, vraiment le podcast américain You're Wrong About par deux journalistes, Sarah Marshall et Michael Hobbs. C'est vraiment, en fait, c'est eux qui ont vraiment là, suscité ma curiosité pour ce cas-là en particulier. Ils l'ont tellement bien expliqué, je trouve. Vraiment, là, encore aujourd'hui, je suis fan de ces journalistes-là parce qu'ils ont vraiment bien vulgarisé l'information. Donc, si je pouvais vous le recommander, c'est vraiment, là, c'est pas mal une perle, je dirais. Ils ont fait environ 10 épisodes, mais ça s'écoute tellement bien, là. Je veux dire, quand on va à l'école, on prend l'autobus, on conduit,
ouais.
peu importe, c'est
Comme en ce moment, quand
fascinant.
vous écoutez le podcast, vous avez
Ben,
le
c'est
temps,
ça.
là. Vous irez écouter cet épisode-là tout de suite après, là, dans une minute, là. Donc, c'était ça. C'était l'épisode sur le procès d'O.J. Simpson, d'A priori. Donc, heureux de vous avoir diverti pendant ce temps. Heureux de t'avoir reçu, Caroline.
Merci beaucoup.
Ça fait un plaisir. Donc, on se voit pour un prochain épisode sur les ondes de Chiz, à A priori. À bientôt.